Dans le cadre de cette quatrième et dernière conférence, je voudrais d'abord résumer ce que j'ai dit lors des trois premières, afin de pouvoir vous proposer une théorie alternative qui soit ancrée dans le processualisme. Je tâcherai donc de garder ce résumé aussi bref que possible. Lors de ma première conférence, j'ai commencé par examiner l'analyse kantienne des faits et des valeurs. Puis, dans un second temps, j'ai étudié la façon dont Durkheim y avait répondu. La séparation stricte que Kant opère entre faits et valeurs reflète la distinction plus large qu'il fait entre la science et la morale en tant qu'activités humaines. Kant nous dit qu'en dépit de la force qui est la sienne, l'activité scientifique comporte des limites intrinsèques. L'une de ces limites réside dans le fait que la science est incapable de prouver que la liberté et la morale n'existent pas. Cependant, puisque la raison pure ne se porte pas d'être incomplète, elle va alors compenser ce vide en y introduisant la morale. Notre conviction d'être libre en tant qu'êtres humains et notre foi qu'il existe des lois morales s'en trouve donc par la même justifiée. La réunification des faits et des valeurs s'opère alors à travers les jugements singuliers que forment les individus tout au long de leur vie. Comme je l'ai démontré, Durkheim reproduit plus ou moins la structure de la démonstration kantienne. Il remplace la transcendance qu'il imagine être d'ordre métaphysique chez Kant par une transcendance d'ordre social. Mais ce faisant, il crée une distinction qui n'est fondée sur aucune différence réelle. La démonstration faite par Durkheim de la liberté morale ressemble dans sa logique à celle de Kant. Il s'agit dans les deux cas de recourir à l'argument de « comme si ». Mais ces deux approches restent différentes. Kant dit que nous ne pouvons pas savoir si nous sommes libres ou pas, et donc il faut nous comporter comme si nous l'étions. Pour Durkheim, nous pouvons savoir que nous sommes déterminés par des forces sociales, mais si nous acceptons ce savoir, alors nous pouvons consentir librement à subir une telle détermination sociale. Nous comportons alors comme si nous étions véritablement libres. Dans la plupart de ses écrits, Durkheim va cependant plus loin. Il met alors à envisager qu'une action libre ne constitue rien de plus qu'une variation mineure et résiduelle vis-à-vis d'un comportement moyen socialement déterminé. Puisque la réponse de Durkheim à Kant avait été suscitée par son rencontre avec l'historicisme, ma deuxième conférence s'est penchée sur cette approche et sur l'approche qui se présente comme son alternative principale. Tour à tour, j'ai examiné la façon dont chacune de ces approches conçoit la question de l'ontologie, de la particularité, de la causalité et de la temporalité. En comparant les qualités et les défauts de chacune de ces visions du monde social, j'ai été dirigé vers le processualisme, c'est-à-dire une conception du monde social organisée autour du constat que le présent est inexorablement et perpétuellement en changement. Pour un processualiste, ce n'est pas le changement, mais la stabilité qui pose problème. L'approche processuelle tient compte du fait que les effets et les perceptions causées par un événement ne se déplacent pas tous à la même vitesse à travers la structure sociale. En conséquence, le processualisme s'appuie sur une conception du présent comme épais, autrement dit, une période étendue plutôt qu'instantanée, une période délimitée au sein de laquelle les effets que j'ai évoqués se déplacent d'un présent local à un autre. C'est également une approche qui est fondée sur l'historicalité. L'historicalité, c'est l'ensemble des moyens grâce auxquels le processus social et ses contextes charnels et matériels d'ailleurs enregistrent certains aspects du présent. Cet enregistrement a lieu d'une manière telle qu'elle participe à la stabilisation des lignages des événements et à la prolongation de l'impact que peuvent avoir des événements autrefois présents et désormais passés. Ce cadre analytique processuel suggère fortement qu'expliquer et faire des choix, qui constituent de manière générale les activités qui engendrent les faits et les valeurs, ont à voir dans le présent expérientiel avec nos tentatives respectives pour comprendre le passé et le futur. En effet, l'historicisme et les théories de choix, comme l'économie, qui sont ses principales concurrentes, trouvent respectivement leurs racines dans ces deux activités, expliquer et faire des choix. À travers l'analyse des deux célèbres textes de Max Weber, j'ai donné lors de ma troisième conférence une illustration de ce que je viens de décrire à propos de l'approche processualiste, mais j'ai également montré qu'expliquer, c'est-à-dire regarder vers le passé, et faire des choix, c'est-à-dire regarder vers l'avenir, sont des activités qui se chevauchent nécessairement dans le présent. J'ai ainsi précisé que j'entendais par présent et paix une notion développée au cours de ma seconde conférence et qui découle d'une ontologie processuelle du monde social. Faits et valeurs, ou si vous préférez, expliquer et choisir, sont des activités qui ont lieu de façon simultanée et par conséquent, elles ne peuvent probablement pas être séparées autrement que par un découpage purement analytique. Ici, l'ironie est d'autant plus mordante que Weber s'applique dans ces deux conférences à réaffirmer la validité de la séparation kantienne stricte des faits et des valeurs. Passons donc au programme qui nous attend pour cette quatrième et dernière conférence. Kant a strictement séparé faits et valeurs et la solution qu'il a apportée au problème des faits et des valeurs est essentiellement d'ordre logique. De manière audacieuse et prometteuse, Durkheim a tenté d'historiciser l'approche kantienne afin de la rendre davantage conforme à la réalité empirique. Mais cette tentative a échoué pour deux raisons. La première raison est que Durkheim a conservé trop d'éléments du dispositif kantien, et la deuxième raison est que l'historicisme est une approche qui comporte elle-même plusieurs problèmes fondamentaux. Ces problèmes sont à rattacher à l'incapacité de l'historicisme à rendre compte du futur et du fait que celui-ci est contenu en germe dans le présent, c'est-à-dire à travers la dissémination discrète, mais toujours en cours des conséquences du passé dans la structure sociale du présent. Nous avons également vu que les théories visant à voir le futur échouaient à prendre en compte de manière satisfaisante le passé, dont les événements sont constamment travaillés dans le présent par les forces qui le peuplent. En outre, comme nous avons vu à la fin de ma troisième conférence, il est clair que les chercheurs en sciences sociales doivent aussi combiner faits et valeurs dans leurs travaux. Cet effort doit être conscient car, que nous le voulions ou non, nous sommes voués à mélanger faits et valeurs de façon inconsciente dans nos analyses. Tout cela nous amène à théoriser à nouveau frais et de manière processuelle la façon dont les faits et la valeur se mêlent dans le présent. C'est donc à cette tâche que je vais désormais m'atteler. Pour cela, permettez-moi de revenir à l'ontologie processuelle que j'ai développée lors de ma seconde conférence. Dans ce cadre, tout ce qui compose le monde social a une histoire, et par conséquent, les faits, les valeurs et le rapport qu'ils entretiennent doivent aussi avoir une histoire. Peut-être cette idée nous aidera-t-elle à approcher le problème des faits et des valeurs d'une nouvelle manière. Voici donc notre programme d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je rappellerai l'hypothèse formulée lors de ma deuxième conférence, selon laquelle faits et valeurs auraient respectivement à voir avec le passé et le futur. Je prolongerai alors cette intuition à travers le concept de sédimentation en tant que processus. Dans un second temps, je m'appuierai à nouveau sur une idée développée à l'occasion de ma seconde conférence, à savoir que le temps social et l'espace social sont peut-être une même et unique propriété. Je soulèverai alors la possibilité que le processus de sédimentation que je viens d'évoquer est un alter ego sur le plan spatial que je qualifierai de réciprocité. Ce dernier processus, cependant, se révélera à l'examen plus complexe que celui de sédimentation. Dans un troisième temps, je tâcherai de développer et de généraliser ces concepts de sédimentation et de réciprocité, alors encore à l'état de débauche. Je défendrai l'idée que dans le présent et paix opèrent simultanément deux processus. Le premier construit une partie de ce présent comme un présent factuel, contraint, donné. Le second fonctionne de manière sensiblement différente en ce qu'il construit une partie du même présent à travers des choix et des possibilités. Ces deux processus, que je désignerai de façon très littérale comme le processus de fabrication et le processus de valorisation, se chevauchent dans le présent TP. En effet, c'est précisément l'intensité de ce chevauchement qui établit la présentéité du présent expérientiel. Je conclurai ce cycle de conférences en m'inscrivant dans les pas de Durkheim lorsqu'il a défendu l'idée selon laquelle les valeurs morales sont toujours en train d'évoluer. J'irai cependant plus loin et je dirai qu'il en va de même des faits et des lois qui gouvernent le monde social, ce avec quoi Durkheim n'aurait peut-être pas été d'accord. Mais puisque tel est le cas, Kant nous aide à mener à bien notre quête de la morale vraie. Celle-ci doit nécessairement correspondre aux règles qui nous permettent de réguler les deux processus en reconfiguration permanente, la fabrication et la valorisation. Cette morale vraie doit prendre la forme d'un impératif catégorique qui commanderait la façon dont nous pouvons gouverner le rapport entre la fabrication et la valorisation à un moment donné de notre expérience. Notre programme du jour comprend donc quatre étapes: sédimentation, la réciprocité, les processus de fabrication et valorisation, et une proposition d'impératif catégorique processuel. Commençons donc avec le processus de sédimentation. J'ai précédemment émis l'idée que le périmètre des valeurs est en réalité le même que celui des choix qui sont possibles, autrement dit le futur. De même, j'ai émis aussi l'idée que le périmètre des faits est en réalité le même que celui des choses qui sont expliquées, autrement dit le passé. Ainsi, de même qu'il existe une forte affinité, mais pas une équivalence, entre les valeurs, les choix et le futur, de même existe-t-il une forte affinité, mais pas une équivalence, entre les faits, l'irrévocabilité et le passé. C'est précisément cette affinité que nous donne l'impression que le passé peut être expliqué et le futur est ouvert. Faisons désormais le lien entre ces deux idées. La vie d'un événement est donc un processus au long cours que l'on peut se représenter de la manière suivante. Au départ, cet événement n'est qu'un rêve. Ce rêve devient ensuite tour à tour une possibilité, une probabilité et enfin une action. Le processus se poursuit alors de faits localisés qui commencent à faire l'objet de discours eux aussi localisés. L'événement se transforme en opinion largement répandue dans la population, puis en fait qui fait autorité. Les déterminations engendrées par un événement se disséminent de la même façon. Bien entendu, les conséquences immédiates de cet événement ont bien un caractère irrévocable. Par exemple, le décès d'un individu n'a pas besoin d'être construit socialement pour avoir des conséquences bien réelles. Mais ces conséquences prennent bel et bien du temps pour disséminer à travers le processus social. Un décès a d'abord un impact financier sur la famille du défunt. Dans un second temps, ce sont lieux de travail et fonctions que le défunt assurait doivent être restitués aux employés restants. Dans un troisième temps, ce décès a un impact sur les associations dans lesquelles le défunt était peut-être bénévolé, et ainsi de suite. Mais cette trajectoire que j'ai décrite comme linéaire constitue bien entendu un idéal type. En réalité, voici comment il faut s'imaginer ce processus. Les rêves au sujet de l'avenir sont semblables à des centaines de flocons de neige. Ces flocons sont si légers qu'ils virevoltent lentement, commençant très haut dans le ciel, puis descendant progressivement vers de plus basses altitudes, celles de la possibilité, puis de la probabilité. Soudain, une brise, celle de l'imagination, les ramène vers une altitude plus élevée où règnent les envies. Mais parfois, ces flocons se dissolvent et n'existent désormais plus qu'à l'état de vapeur. À des altitudes encore moins élevées, les flocons grossissent et s'alourdissent et s'agglomèrent peut-être jusqu'à constituer une masse composée de plusieurs cristaux. Les vents doivent désormais être plus puissants pour réussir à les faire remonter à l'altitude de la probabilité, de la probabilité à celle de la simple possibilité. Malgré cela, certains des flocons non encore agglomérés sont toujours susceptibles de s'évaporer. Les flocons les plus lourds finissent leur course sur le sol encore sec. Là, ils s'évaporent peut-être sur le champ et peut-être forment-ils une fine pellicule de neige qui finit par fondre et imbiber le sol, terreau de la réalité. Mais ici encore, l'eau qui composait ces flocons est brinque-ballée à droite ou à gauche, et même tirée vers l'eau par la capillarité. D'une manière ou d'une autre, ces flocons fondus s'enfoncent lentement dans les profondeurs du sol, jusqu'à finir par atteindre la nappe phréatique, autrement dit, le véritable passé. Ce n'est qu'à cette étape, précisément, que les experts sont arrivés à un consensus à leur sujet, que l'on peut considérer que les faits sont morts et enterrés, désormais sans rapport aucun avec les actions du présent. Mais, même dans ce cas, un historien un peu plus audacieux que les autres est susceptible, pour défendre un point de vue dans son présent, de creuser un puits dans le passé. Et voilà alors que les faits, pourtant morts et enterrés, reviennent à la surface et réintègrent le périmètre des activités du présent. Tout présent. Cependant, au cours de cette exhumation, ces faits sont réinterprétés. Dans le processus que je viens de décrire, qu'est-ce qui joue le rôle de la gravité? Il s'agit de l'inventivité permanente dont font preuve les humains au cours de leur vie, qui conduit inévitablement à ce que de nouvelles pensées et de nouvelles expériences recouvrent les précédentes. Et les vents du présent que je viens de décrire, que sont-ils au juste? Ils prennent la forme de bourrasques produits par l'imagination des individus et qui peuvent regonfler les chances qu'un événement survienne ou qu'un projet soit mené à bien. A contrario, ces rafales peuvent être aussi celles d'un sirocco qui viendrait alors assécher l'événement jusqu'à ce que la possibilité même qu'il se produise s'évapore complètement. Ce processus de sédimentation que je viens de décrire, nous pouvons le décomposer grossièrement en trois étapes, avant, pendant et après l'événement. La sédimentation qui a lieu avant que l'événement ne survienne, nous pouvons l'appeler fixation. La fixation, ce sont tous les moyens par lesquels la probabilité augmente qu'un événement survienne. Ces moyens sont en réalité des actions miniatures. Par exemple, nous pouvons commencer à importer un rêve ou un événement qui pourrait se produire dans un récit à visée prédictive. Nous racontons alors une histoire dont l'élan interne semble rendre la prochaine étape inévitable. Autre option, nous attachons un rêve à un événement à un autre événement qui a plus de chances de se produire, précisément pour profiter de cette plus grande probabilité. Autre option, nous réorganisons une interaction qui a lieu dans le présent de manière à ce que la probabilité de l'événement que nous désirons soit encore plus grande. Ou peut-être nous croyons que cet événement a des grandes chances de se produire, ce que le fait advenir d'une manière presque performative. Toutes les options que je viens d'énumérer constituent des formes familières que prennent nos actions dans le présent, des actions qui visent à transformer un événement non encore advenu, un événement d'abord rêvé, que devient ensuite possible, puis probable, et ainsi de suite. Tout ce que je viens d'énumérer constitue des exemples de sédimentation active du futur, et on peut les regrouper sous le terme d'anticipation. L'anticipation, c'est le processus par lequel le futur s'encode lui-même dans le présent. C'est donc un processus analogue à l'historicalité, cette dernière étant le processus par lequel le passé s'encode dans le présent. L'anticipation et l'historicalité sont des processus qui cherchent tous deux à modeler le présent, Le premier, parce qu'il réduit l'éventail de possibilités. Le second, parce qu'il conserve certains aspects du passé. Pourtant, au cours de la fixation, la sédimentation active est complétée par une sédimentation passive, c'est-à-dire par toute une multitude de processus miniatures qui résultent de l'historicalité. Un événement peut devenir plus probable, ses contours plus précis ou plus visibles, quand il résonne, par exemple, avec des souvenirs ou des enregistrements dans le présent. Par certains côtés, l'historicalité s'étend, pour ainsi dire, jusque dans le futur. Lorsqu'un événement se produit, le changement est plus aigu que tout ce que je viens de décrire. En effet, un événement X a pour origine d'autres événements qui se sont produits dans son voisinage immédiat et qui ont brusquement engendré toute une rouée des conséquences de remaniement qui ont fait advenir notre événement X. Mais une partie de ces conséquences a bel et bien précédé la survenue de l'événement. Lorsqu'un événement passé du statut d'événement possible à celui d'événement probable, ce simple changement a une influence sur les chances que d'autres événements, qui sont encore à l'état de possibilité, se produisent réellement. Lorsqu'un événement passe du statut d'événement probable à celui d'événement imminent, la probabilité que les événements voisins se produisent change encore davantage. En effet, lorsque nous disons qu'un événement se produit, ce que nous décrivons ne découle pas d'une rupture véritable, mais plutôt d'une augmentation soudaine des conséquences qui en sont à l'origine. Parmi ces conséquences, je fais plus particulièrement allusion à celles qui chamboulent les ressorts même de l'historicalité, car ce sont elles qui ont l'impact le plus fort. On peut ainsi citer l'exemple du décès d'un corps qui conservait en son sein le souvenir de certaines choses, ou celui de la disparition de certains mécanismes de socialisation, car leur agent principal a cessé d'exister. Cependant, si nous voulons désormais examiner ce que devient un événement après qu'il est produit, nous n'avons pas d'autre choix que de repenser notre métaphore. J'ai précédemment énuméré toutes les étapes nécessaires à ce qu'un événement survienne, ainsi que la façon dont ses conséquences se disséminent graduellement à travers la structure sociale. Mais j'ai laissé de côté une dimension importante de la période qui vient après qu'un événement s'est produit, à savoir l'oubli. Très rapidement, nous oublions en bloc une quantité énorme d'informations relatives à l'événement. Le nom des protagonistes, l'état de la météo, tous les autres soucis que l'on pouvait avoir à l'époque, ce que l'on avait mangé ce jour-là, et ainsi de suite. Nous ne nous souvenons que d'un condensé de l'événement et des quelques détails indiciels qui nous ont marqués. Après tout, le passé n'existe pas en tant que tel. Il a existé, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout ce qui en reste, ce sont nos souvenirs, ce sont les enregistrements formels et informels qu'il a laissés, et ce sont les conséquences qu'il a engendrées et qui continuent à se répandre dans tout le processus social. Par conséquent, ma métaphore à propos des flocons de neige est tout entière inadéquate, car elle dépeint le temps comme suivant une direction, celle que suivent les flocons de neige lorsqu'ils tombent du ciel. Or, cette direction n'existe pas. Un événement, flocon de neige, ne tombe pas du ciel. Il apparaît, se fige, survient, puis s'effiloche, en étant progressivement oublié, et tout ceci déroule dans le présent. C'est le présent qui se déplace dans le temps, pas le flocon. En outre, lorsqu'on décrit la trajectoire d'un flocon de neige qui s'infiltre jusqu'à la nappe phréatique, il ne s'agit pas tout du long d'une seule et même chose. On décrit en réalité un lignage composé de choses que nous pouvons suivre au fil de leur apparition dans le processus social. Autrement dit, au fur et à mesure que l'infinité des choses qui composent ce processus se transforme, passant de l'état de futur à celui du présent, puis de passé. Ces choses ne se déplacent nulle part. La tempête de neige ne cesse jamais de faire rage, mais elle se produit toujours au même endroit. Nous avons donc désormais une meilleure idée de l'affinité qu'entretiennent faits et valeurs avec la dimension temporelle de notre expérience. Dans un sens, on pourrait dire que le processus social consiste à transformer des valeurs en faits. Étant donné une telle affinité, comment faits et valeurs se situent-ils vis-à-vis de la dimension spatiale du processus social, c'est-à-dire vis-à-vis de la longue chaîne de lieux qui, comme je l'ai décrit dans ma seconde conférence, parsème le présent newtonien. Si, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, le temps social et l'espace social sont grosso modo équivalents l'un à l'autre, alors peut-être pourrons-nous observer au sein de l'espace social une affinité élective similaire à celle qu'entretiennent les faits et valeurs vis-à-vis de la temporalité? Mais il y a deux différences majeures. Premièrement, le temps s'écoule dans la même direction pour tous les êtres humains. Mais on ne peut pas utiliser le terme de direction pour décrire l'écart entre deux points dans la société. En réalité, pour aller de soi jusqu'à autrui, la direction que l'on suit est l'inverse de celle que l'on suivrait pour aller d'autrui jusqu'à soi. Deuxièmement, même si nous pensions qu'il existe bien une affinité entre la différence entre faits et valeurs d'une part et la différence entre soi et autrui d'autre part, en quoi ces deux différences seraient-elles semblables? Nous pourrions par exemple penser que soi a des valeurs, alors qu'autrui est factuel et socialement déterminé. C'est comme ça que pensent la plupart des chercheurs en sciences sociales. Nous rattachons les inégalités sociales au type d'environnement dans lequel les individus ont grandi et au type de famille dans lequel ils sont nés, et nous dénonçons le caractère déterministe du système qui engendre ces inégalités. Autrement dit, nous décrivons les autres individus comme déterminés, et c'est ce qui est censé expliquer le type d'existence qu'ils mènent. Et pourtant, pendant ce temps, nous vivons nos propres vies de façon bien différente. Nous continuons à tout faire pour garantir le bien-être de nos propres enfants et nous considérons que nous agissons librement ainsi. De plus, nous estimons généralement qu'aider nos enfants est une valeur morale qui prime sur celle qui consiste à réduire les inégalités sociales. De fait, nous considérons que les autres personnes sont déterminées et que nous, nous sommes libres. En effet, dans les nombreuses situations où deux groupes sont socialement définis en miroir, chacun de ces deux groupes voit toujours ses propres actions comme des initiatives libres, conformes à des valeurs, et croit que celles de l'autre groupe ne le sont pas. Chacun des deux groupes croit plutôt que l'autre est mû par des intérêts spécifiques qui reflètent des déterminismes liés à la religion, à la classe, n'importe, dont l'effet est d'avoir conduit le groupe en question à adopter des valeurs purement superficielles. Dans cet exemple, donc, soi est le domaine des valeurs, quand autrui est celui des faits. Et pourtant, on peut montrer l'inverse en faisant appel à d'autres exemples. Le romantisme est fondé sur l'idée que le monde dont je fais directement l'expérience est composé de faits, alors que le domaine d'autrui est celui des rêves. En effet, l'intrigue la plus courante dans les romans du XIXe siècle consiste à décrire la façon dont un autrui rêvé se révèle progressivement être bien différent dans les faits. Telle est l'intrigue de romans comme Madame Bovary ou Anna Karenine. C'est également le fil directeur de la plupart des travaux historiographiques qui décrivent la rencontre entre l'Occident et le monde non occidental, une tradition qui va du mythe du bon sauvage chez Rousseau au paysan rationnel de la théorie de la modernisation. Il ne vous a pas échappé qu'à travers tous ces exemples, nous sommes partis du principe que lorsque nous cherchons à comprendre autrui, nous savons comment séparer faits et valeurs. Et pourtant, rien n'est moins vrai. En réalité, lorsque nous nous engageons dans une interaction avec autrui, la première difficulté qui se présente à nous est justement de réussir à distinguer faits et valeurs dans ce que nous tirons de l'interaction, c'est-à-dire dans les perceptions, les actions et les mots qui émanent de cette autre personne. Cette distinction ne va pourtant pas vraiment de soi, et nous devons nous-mêmes décider à quelle catégorie, faits ou valeurs, attribuer ces perceptions, ces actions et ces mots. Nous nous posons ainsi le type de question suivant. La réaction d'hostilité dont autrui a fait preuve à notre égard est-elle imputable à quelque chose que nous avons dit ou fait? Cette réaction provient-elle plutôt de la personnalité de cet individu? Et si tel est le cas, celui-ci avait-il l'intention ou non de se comporter ainsi? Existe-t-il un stéréotype à notre égard qui conduirait autrui à partir du principe de que tout ce que nous pouvons dire est mal intentionné ou trompeur? Ou bien, autrui est-il en colère pour d'autres raisons et alors l'interaction que nous avons en ce moment serait tout simplement colorée par cette colère? Si nous examinons ces questions une par une, nous nous rendons compte qu'à chaque fois, nous tentons de classer les réactions d'autrui en deux catégories. D'une part, celles qui sont imputables à des faits et à des déterminations, et d'autre part, celles qui sont imputables à des valeurs et des choix faits par autrui. La façon dont nous-mêmes réagissons dépend entièrement de cette entreprise de classification, et la réaction d'autrui dépendra elle aussi, à son tour, de la manière dont il aura classé nos propres comportements. Et pourtant, dans le cours de l'interaction, nous sommes nous-mêmes quasi incapables de distinguer dans nos propres comportements et dans les émotions que nous ressentons ce qui est factuel et déterminé de ce qui repose sur des valeurs et est susceptible de faire l'objet d'un choix. En somme, l'organisation bipolaire de la temporalité facilite l'affinité entre, d'une part, la distinction entre faits et valeurs, et d'autre part, la distinction entre passé et futur. Mais une telle organisation est loin d'aller de soi quand on considère le présent en tant qu'espace social. Se pose en outre le problème de la distance sociale différentielle. À tout instant newtonien, je fais l'expérience non seulement des actions et des sensations qui sont situées à proximité immédiate de moi dans l'espace, dans le temps social et dans l'espace social, mais je fais également l'expérience d'actions et de sensations plus anciennes qui émanent d'un autrui lointain. Pour m'atteindre ces éléments lointains, ont pris un certain temps newtonien et donc ces choses dont je fais l'expérience dans mon présent expérientiel ont en réalité été initiés en amont dans un lieu lointain par quelqu'un d'autre que moi. Cet autre fait lui-même peut-être l'expérience, en ce moment newtonien, de choses que j'ai moi-même initiées il y a un certain temps dans mon passé expérientiel à moi. Pour le dire plus simplement, si l'on prend des personnes situées très loin de moi dans l'espace social, on peut dire que je fais dans mon présent l'expérience de leur passé et qu'ils font dans leur présent l'expérience de mon passé. Inversement, mon présent influencera leur futur et leur présent influencera mon futur. Cette asymétrie réciproque peut être en partie réduite par le développement de moyens de communication toujours plus rapides, mais elle ne pourra jamais être oubliée, ne jamais être abolie. Nous constatons ainsi que le rapport entre faits et valeurs joue un rôle sensiblement différent dans le processus social selon qu'on le considère dans sa dimension spatiale ou dans sa dimension temporelle. Par rapport au temps, on peut se représenter un événement comme passant du statut de choix futur reposant sur des valeurs au statut du fait passé reposant sur la causalité. Mais par rapport à l'espace social, faits et valeurs sont organisés de façon bidirectionnelle. Donc, faits et valeurs sont nécessairement combinés dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous semblons être, et notamment dans le cadre d'une interaction. Le destin de cette interaction, son succès ou son échec, dépend de la façon dont chacun des interlocuteurs décrypte les comportements des autres et les décompose soit en fait, soit en valeur, de façon à arriver à un certain équilibre entre les deux parties, qui rendra alors possible l'interaction. Cette prouesse que constitue un tel équilibre entre les deux pôles de l'interaction ne peut être atteinte que sur une période de temps, car l'échange doit durer assez longtemps pour surmonter la confusion initiale qui résulte du décalage. Cette nécessité que l'interaction dure un certain temps nous conforte encore davantage dans notre conception du présent comme épais. Surtout, se concentrer sur la dimension spatiale du processus social révèle que la qualité de fait et celle de valeur n'est en rien une propriété intrinsèque de certaines choses, de certaines affirmations, revendications, actions, significations, ou de certains acteurs, comme nous l'avons postulé dans les exemples que nous avons pris tout à l'heure. C'est en réalité la façon souple dont nous gérons le flux de stimulus qui nous assaille et dont nous divisons ce flux en deux ruisseaux distincts. Le premier ruisseau est composé des choses que nous traiterons ensuite comme des facteurs déterminants et irrévocables. Dans nos vies ou dans nos activités, ces éléments joueront peut-être le rôle de contrainte ou d'ouverture, mais dans tous les cas, ils ne requièrent pas d'autres actions de notre part, si ce n'est pas de les prendre en compte. L'autre ruisseau est composé des choses que nous traiterons ensuite comme support de valeurs, positives ou négatives, autrement dit, des choses à propos desquelles nous pouvons et nous devons agir. Les deux premières parties de ma conférence nous conduisent donc à la même conclusion, à savoir que faits et valeurs ne sont pas de nature différente. Ce sont tous deux des processus, mais des types différents de processus. À tout moment, ces processus façonnent le processus social, produisant ainsi des choses qui ressemblent à ce que nous avons l'habitude d'appeler faits et valeurs. Mais la réalité du monde social, ce n'est pas qu'il existe des événements qui ont pour propriété intrinsèque d'être un fait ou d'être une valeur, ou encore une combinaison des deux. Non, voici à quoi ressemble plutôt la réalité. Tout d'abord, il y a notre présent de l'expérience qui se va perpétuellement de l'avant, et la tempête de neige qui, elle, est stationnaire. Les flocons, ce sont des valeurs qui tendent à devenir des faits, et ces flocons sont constamment ballottés, attirés vers le sol par le poids de nouvelles idées ou soulevés par les rafales de l'imagination. Ensuite, la réalité du monde social, c'est ce décryptage réciproque et asymétrique auquel se livrent entités sociales et acteurs sociaux lorsqu'ils interagissent les uns avec les autres. Le but de ce processus de décryptage, c'est d'amasser faits et valeurs en deux tas distincts de manière à pouvoir soutenir une interaction. Faits et valeurs ne sont pas des choses dotées de telle ou telle propriété, mais plutôt les résultats provisoires de différents types de processus. Pour que nous gardions bien cela en tête, je donnerai à ces deux processus les noms de fabrication et valorisation. À tout moment, nous tentons de classer les perceptions, les actions et les événements du processus social en deux catégories. Ce que nous saisissons le mieux en tant que fait et ce que nous saisissons le mieux en tant que valeur. Ce faisant, nous nous appuyons bien entendu sur nos conceptions actuelles de ce qu'est un fait et ce qu'est une valeur, c'est-à-dire de ce qui est déterminé et de ce qui reste ouvert à l'action. Ces conceptions qui sont actuellement les nôtres proviennent du présent qui précède immédiatement celui dans lequel nous nous trouvons. Et elles y ont été déposées par les processus décrits précédemment sous le terme d'historicalité. Autrement dit, notre présent n'est pas une page blanche. Au contraire, tel des joueurs de cartes, nous héritons d'une main. Mais cette main peut être remodelée plus ou moins aisément en effectuant une ou plusieurs actions parmi les suivantes. Nous pouvons nous défausser de certaines cartes. Nous pouvons transformer des cartes faits en des cartes valeurs et vice-versa. Nous pouvons changer notre manière de valoriser et ainsi de suite. Comme nous le savons tous, La plupart des faits d'aujourd'hui ne sont que des valeurs qui, dans le passé, ont été congelées temporairement. Réciproquement, la plupart des valeurs d'aujourd'hui ne sont que des façons nouvelles de remettre en cause les faits du passé. Autrement dit, les processus de fabrication et de valorisation réorganisent continuellement le présent, qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, contient également tout ce qui reste de notre passé et ce qui est anticipé de notre futur. Nous-mêmes n'échappons pas à ce processus, puisque nous sommes nous-mêmes des lignages d'événements en son sein. Et les événements que nous essayons de comprendre pourraient bien être des morceaux de nous-mêmes, comme lorsque nous nous demandons « Me suis-je comporté ainsi car j'y étais contraint ?» ou « Parce que je l'ai réellement choisi ?» En outre, ces événements font également l'objet de processus de fabrication et de valorisation qui proviennent d'autres endroits du processus social et qui sont initiés par d'autres acteurs dans d'autres situations, etc. Mais tout ceci est particulièrement abstrait. Permettez-moi donc de prendre pour exemple cette conférence, puisque c'est ce que nous avons sous la main. Pendant que vous m'écoutez parler, vous décomposez mes propos en deux catégories. Ce qui requiert de vous d'agir ou de faire un choix sur le plan intellectuel et ceux qui sont purement factuels. Certains d'entre vous auront, dans leur esprit, déjà rangé ma conférence tout entière dans telle ou telle catégorie en fonction d'éléments factuels que vous croyez savoir à mon sujet. Ça peut être que je suis un homme, ou que je suis un Américain, ou bien que je m'intéresse à Kant, ou encore que je n'utilise pas de PowerPoint. Après avoir rangé ma conférence dans la catégorie des faits, vous êtes maintenant totalement libre de penser à tout ce que vous voulez, et peut-être alors fantasmerez-vous sur le rendez-vous galant que vous attend ce soir, peut-être vous demanderez-vous si votre fille est aussi malade qu'elle prétend l'être, ou peut-être encore évaluerez-vous vos chances de passer le week-end à la montagne. Parmi vous, d'autres auront vu dans ma conférence une occasion très locale de faire un choix ou d'entreprendre une action. Pour cela, les éléments que je viens d'énumérer peuvent avoir créé une occasion de faire un choix. Vous êtes peut-être dit, le conférencier est un homme voyant qui va nous dire qu'il est sur le point de révolutionner les sciences sociales, parce que les hommes font des choses comme ça. Ah non, il est un peu trop vieux pour ça. Mais peut-être il va complètement nous déprimer avec des histoires de fin du monde. Enfin, pourquoi m'embêter à faire des plans sur la comète? Je n'ai qu'à attendre à vous de voir si blablabla d'universitaire a un sens et si je peux en tirer quelque chose. En d'autres termes, vous venez pour assister à ma conférence, mais pendant que vous m'écoutez parler, vous passez votre temps à tourner mes propos dans tous les sens, de manière à trouver une occasion d'agir. Ce faisant, vous traitez certains aspects de cette conférence comme des faits qui imposeront des contraintes ou qui serviront de guide à un choix qui se présentera à vous dans le futur. Dans le même temps, vous traitez d'autres aspects de ma conférence comme la substance même de ces choix et parfois même vous n'arrivez pas à décider si ces aspects constituent des faits ou des valeurs. Ces processus, vous en êtes les acteurs, vous le façonnez en privilégiant tel ou tel aspect en fonction du moment ou de l'objectif que vous poursuivez. Bien entendu, ce classement automatique de ma conférence en deux catégories, que sont les faits et les valeurs, est un processus qui lui-même est localisé en d'autres processus de fabrication et de valorisation qui remplissent votre journée. L'espoir que vous arriverez à abattre une partie de la montagne de travail qui vous attend, un engagement que vous avez pris et dont vous espérez réussir à vous défaire, une inquiétude que vous avez depuis longtemps à propos de vos parents et ainsi de suite. Vous pouvez réarranger les cartes dans votre main afin de déployer vos processus de choix pour obtenir le meilleur résultat possible, quel qu'il soit. Parmi les cartes qui se trouvent dans votre main, beaucoup sont des faits, ou plutôt des choses que vous estimez pouvoir être considérées comme des faits. par exemple, ce que veut dire assister à une conférence, être étudiant, avoir une famille, être communiste. Tous ces exemples constituent ce que les fonctionnalistes passoniens auraient appelé des rôles sociaux. Mais en réalité, ce ne sont que les choses que les gens traiteraient la plupart du temps comme des faits. Ça n'a en réalité rien à voir avec des rôles ou des ensembles de règles. Il se pourrait bien que la seule raison pour laquelle ces choses se maintiennent dans le temps est justement que les gens les prennent pour des faits. Pour qu'on arrête de prendre ces choses pour des faits, il suffirait que beaucoup de gens se mettent d'accord sur la façon dont s'y prendre pour les changer. Il en va de même pour des quatre valeurs que vous avez en main. Il existe un ensemble de choses que nous avons l'habitude de traiter comme étant les principales occasions de faire des choix importants, avec qui se marier, quel métier choisir, sur quel sujet se spécialiser, et ainsi de suite. Autant de choix qui sont censés nous préoccuper au cours de notre vie. Mais c'est une liste à la fois partielle et amenée à changer. L'exemple de ma conférence portait sur une situation très locale, à la fois dans le temps et dans l'espace. Mais tel que je les conçois, les processus de fabrication et de valorisation ont une portée beaucoup plus générale. Comme mon exemple le suggérait, je désigne par fabrication le processus qui produit la majeure partie de ce que les institutionnalistes ou les passoniens appelleraient des structures sociales stables. Quant au processus de valorisation, il identifie les choses qui, à tous les niveaux possibles, peuvent devenir des changements. Je n'entends pas par là abandonner mon idée de pression précaire ni mon désaccord avec l'approche institutionnaliste. La stabilité apparente du processus social constitue toujours l'énigme à résoudre. Mais décrire ces deux processus comme opposés implique, pour que les humains puissent agir de concert dans le processus social, que nous nous accordions sur le fait que certaines choses sont provisoirement stables, mais qu'un tel consensus est le fruit d'une activité incessante. Pour le dire rapidement, ces deux processus visent chacun des choses de nature différente. Le processus de fabrication cherche à solidifier dans le flux de présent un ensemble de choses qui soient pour le moment immuables, durables, reliées les unes aux autres par des formes de causalité ou d'autres types de régularité. Il porte sur des choses qui peuvent être mesurées, dont les contours sont nettement définis. Ce processus tend en outre à imposer ses caractéristiques au flux du processus social. La fabrication est un processus qui discrétise, qui mesure, qui définit, qui pousse vers la cohérence. D'une certaine manière, c'est un processus qui a à voir avec la connaissance plutôt qu'avec la volonté. Ici encore, nous devons cependant nous garder de penser que le processus de fabrication n'a lieu qu'à l'intérieur du cerveau des individus. Il est également consubstantiel à l'historicalité, ce qui est mesurable et plus aisé à enregistrer et par conséquent à conserver. La fabrication est également consubstantielle à l'interaction. On arrive plus facilement à un consensus sur quelque chose dont la définition est claire. Mais le corollaire est que les malentendus surviennent parfois plus facilement, étant donné que l'accord peut reposer sur des bases erronées. A contrario, le processus de valorisation s'efforce de canaliser le flux de présent pour qu'il prenne la forme d'options, de possibilités, autant de choses qui peuvent en principe être le support d'action. En matière de valorisation, ce qui ne peut être support d'action n'est pas intéressant, qu'il s'agisse de faits clairement définis ou des chimères. Ce processus peut porter sur des choses qui ont été transformées en faits, mais dans ce cas, ces choses ne constituent rien d'autre que des prérequis, des contraintes ou des ouvertures éventuelles qui pèsent sur les différents choix possibles. Ce processus cherche à tirer du processus social un ensemble d'objets sur lesquels peuvent porter des actions ou des décisions, ainsi qu'à en tirer l'ensemble des entités, des structures et des prérequis qui déterminent notre capacité à entreprendre ces actions et à prendre ces décisions. Les matériaux qui ce processus assemble peuvent être continus ou discrets, mesurables ou non, clairement définis ou flous. Tout comme le processus de fabrication, le processus de valorisation est cohérent, mais à sa manière propre. Dans le processus de fabrication, la cohérence est celle de la logique, de la classification, de la mesure, de la précision, de la subsomption et de l'abstraction. Une cohérence qui est donc fondée sur une logique hiérarchique d'ordonnancement. La cohérence du processus de valorisation est de toute autre nature, étant donné le caractère très divers des matériaux avec lesquels ils travaillent. Le processus de valorisation tourne autour des choix. Dans sa dimension la plus abstraite, on peut différencier plusieurs modes d'organisation de ces choix. En un, classer et préférer. En deux, tenir pour égal ou ne pas avoir de préférence. En trois, préférer laisser en suspens. Le problème de la cohérence dans la valorisation est bien plus complexe que dans la fabrication. Et en outre, les différentes entités du processus social peuvent privilégier chacune une façon différente de parvenir à résoudre un conflit entre différentes valeurs. Notez bien que, pour le processus de fabrication, les valeurs ne constituent implicitement qu'un simple résidu, toutes les choses qui ne peuvent pas être transformées en fait. Cela, nous avons déjà constaté chez Weber et Durkheim. De la même façon, le processus de valorisation définit implicitement certaines choses comme ne constituant pas des supports futurs du choix, et donc comme des faits. Mais tel que je conçois ces deux processus, il n'y a pas de raison que les résidus générés par l'un représentent la matière principale de l'autre, et vice-versa. Ce sont tout simplement des processus de type différent, n'ayant éventuellement pas la même structure ou la même logique. Mais avant de conclure, je voudrais montrer encore davantage en généralité. Lorsque je fais appel au processus de fabrication et de valorisation, ce n'est pas pour décrire le processus social en me plaçant uniquement sur un plan empirique. Le contenu de ces concepts implique précisément que je me place simultanément sur un plan empirique et sur un plan moral. Après tout, en disant qu'à tout moment ces deux processus s'entremêlent, je m'attaque bien à la distinction kantienne des faits et des valeurs. Ainsi, pour utiliser des termes kantiens les plus habituels, ces deux processus doivent être sous-tendus simultanément pour une description empirique fidèle du fonctionnement du processus social et par une prise de position morale au sujet de ce que ce processus social devrait être. De fait, ma démonstration tente à résoudre l'antinomie kantienne du déterminisme du libre arbitre en procédant différemment de Kant lui-même. Plutôt que de m'attacher à développer la distinction entre faits et valeurs sur le plan de la logique, je conçois cette distinction comme mettant en tension le présent que nous vivons, et cela de manière dynamique. Nous vivons les faits et nous vivons les valeurs, et par conséquent, l'endroit où peut résider la morale vraie au sens du Kant, c'est dans les règles à suivre en matière de fabrication et de valorisation, et lorsqu'on les combine. Autrement dit, dans un système processuel, il ne peut y avoir de morale définie une bonne fois pour toutes. La morale ne peut provenir que des règles que nous suivons dans le cadre du processus qui consiste à entreprendre les changements qui transforment un présent en un autre présent. Ces règles, au bout du compte, ne peuvent qu'être les règles à suivre en matière de fabrication et de valorisation. La position que je viens de détailler est une critique au sens kantien du terme. J'ai défendu l'idée selon laquelle faits et valeurs sont eux-mêmes produits par des processus qui fonctionnent de manière continue. J'ai également montré que ces processus eux-mêmes ne sont pas organisés de façon hiérarchique et que la façon dont ils fonctionnent, comme on posait ses cartes lorsqu'on joue à vivre dans le présent, change petit à petit à mesure que le processus social avance. Tout cela signifie que, d'un point de vue logique, une morale vraie qui prenne la forme d'un impératif catégorique ne peut se trouver que dans les règles à suivre pour changer les processus de fabrication et de valorisation eux-mêmes. Pour le dire plus simplement, dans un tel système, la morale vraie se trouve dans les règles à suivre pour modifier les règles que vous suivez pour vos processus de fabrication et valorisation. Je ne pourrais pas aujourd'hui détailler en quoi consistent ces règles, car un livre entier ne serait alors pas de trop. Je me contenterai donc de répéter ce point crucial de mon raisonnement. S'il existe une morale vraie, ces règles ne peuvent être que celles qui définissent la marche à suivre lorsque l'on veut modifier la manière toujours changeante dont nous approchons les faits et les valeurs. Sur ce point, il serait bon de comparer ma position avec la théorie politique contemporaine et la manière dont celle-ci conçoit en général le fondement de la morale. Dans le monde occidental d'aujourd'hui, la théorie politique est le plus souvent d'orientation libérale et contractualiste. Le postulat est que la société repose sur un contrat établi par les membres d'un groupe que l'on appelle généralement un peuple. Ce contrat divise le monde en deux avec, d'un côté, un domaine public où règne une parfaite égalité entre les individus et de l'autre côté, un domaine privé où c'est l'inégalité qui prévaut. Le domaine public est un idéal immuable. Nous pouvons changer la forme que prend notre quête de la volonté générale, mais l'existence et la vertu de cette dernière n'est jamais remise en question. Par conséquent, il s'agit avant tout de trouver le moyen d'empêcher l'inégalité du domaine privé de peser indûment sur la volonté générale. Au-delà de cette division entre privé et public, le contractualisme est également structuré par une liste d'interdits absolus, un domaine très restreint composé d'actes, crimes, trahisons, génocides, etc., qui sont absolument interdits dans un État ou dans un monde fondé de manière contractualiste. Cette liste d'interdits absolus pose un problème fondamental à ma théorie. En effet, le processualisme est fondé sur une conception du changement comme réalité empirique première, si bien qu'inévitablement, de nouveaux interdits finiront par s'ajouter à la liste ou d'anciens en seront retirés. Pour le dire en des termes plus généraux, ce que mon raisonnement implique, c'est que nous nous libérions en pratique de ce modèle contractualiste, certes admirable, mais immuable. Le monde change et le contractualisme lui-même risque de ne pas durer. Nous avons besoin donc d'un cadre théorique qui, lorsque nous pensons les faits et les valeurs, tienne compte de cette réalité et en assume les conséquences. Autrement dit, ce cadre doit permettre de penser une morale qui soit toujours vraie, indépendamment du contenu que pourra prendre notre théorie politique ou du type de régime dans lequel nous nous trouverons. Une fois que nous avons admis que la société est perpétuellement en changement, nous nous rendons compte que le champ des possibles est très important, autrement dit que notre société pourrait visiter des réalités potentiellement très différentes. Certaines d'entre eux sont affreuses et maléfiques. Cependant, nous savons bien qu'en réalité que nos sociétés se sont déjà retrouvées dans de telles situations. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une forme de morale qui s'y applique également, de manière à pouvoir en sortir aussi vite que possible. Pourtant, et nous le savons bien, au fur et à mesure que le processus social avancera et oubliera son propre passé, une telle liste de situations interdites finira nécessairement par être altérée. Les réalités changeant d'un point de vue empirique, mais que nous désignons toutefois sous le même terme de démocratie, en sont un exemple qui ne nous est que trop familier. Mais adopter une moralité processuelle présente un avantage certain par rapport à la perspective contractualiste. Nous pouvons en effet imaginer des règles qui couvriraient un éventail beaucoup plus large de situations dans lesquelles la société pourrait se trouver en termes de morale. Mais nous devons malgré tout tenter de conserver les réussites fondamentales du modèle stable qu'est le contractualisme, tel qu'il a été théorisé par les contemporains de Kant. L'une de ses réussites, c'est précisément cette liste d'interdits absolus. Nous pourrions alors nous demander ce qui garantit dans mon système théorique qu'une morale au sens véritable du terme existe bel et bien. C'est-à-dire une morale qui aspire à garantir ce que nous considérons généralement comme bénéfique, les comportements prosociaux et altruistes, l'état de droit, la croyance en la dignité de la personne humaine, le fait de se montrer responsable à la fois vis-à-vis du passé et du futur, et en même temps de prendre soin de notre présent. Dans mon œuvre théorique, je pense que cette garantie qu'il existe une morale vraie repose au bout du compte sur un fait. Ce fait, c'est que la personnalité et même le fort intérieur d'un individu proviennent principalement de l'expérience qu'il fait du monde social. Cette formulation est provisoire et je n'ai pas encore trouvé la solution satisfaisante de ce problème. Mais je suis bien conscient que si mon ambition véritable est d'inventer une position morale et pas simplement d'en poser une nouvelle analyse empirique, alors il me faut trouver une solution qui ressemble au fait que je viens de partager avec vous. Malheureusement, le temps qui m'est imparti dans ce cycle de conférences ne me permet pas d'être plus précis. Permettez-moi à présent de vous proposer un résumé de ces quatre conférences. Lors de ce cycle, je me suis évertué à mettre en lumière les problèmes posés par la conception kantienne des faits et des valeurs et par les alternatives formulées ultérieurement en réaction à Kant par un certain nombre de sociologues classiques. Kant lui-même avait perçu très clairement que sa position était menacée par les preuves empiriques que la morale changeait au cours du temps. Pour résoudre ce problème, il a formulé un impératif catégorique qui fait de la morale un énoncé purement formel, de manière à être valable dans le monde social en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Chacun à sa manière, ni Marx ni Weber ne sont départis de ce cadre kantien. Marx n'a pas réussi à résoudre le problème de la liberté humaine et Weber n'a pas su réconcilier objectivité et morale en continuant à les concevoir comme des idéaux indépendants et contradictoires. Durkheim a répondu sans détour à Kant, mais s'est trompé en pensant que ce dernier s'était contenté de postuler une nouvelle forme de métaphysique. Durkheim a donc essayé de déplacer l'argument kantien de la transcendance à la nature, qui sont ses propres termes. Cependant, il a en réalité involontairement reproduit l'analyse kantienne en faisant du social sa nouvelle métaphysique transcendantale. Sur le plan de la nature, Durkheim s'est contenté de réduire le périmètre de la morale à tout ce qu'un questionnaire définit comme tel, mais dans ses propres actions, il n'a clairement pas fait sienne cette définition. La stratégie qui est la mienne n'est pas de chercher à éviter de penser de façon historique, mais de justement prendre cette dimension à bras le corps afin de mieux concevoir les faits et les valeurs, c'est-à-dire de reconnaître que ceux-ci sont en partie intégrés au flux de l'expérience de l'histoire elle-même, à la fois à travers le temps et à travers l'espace social. Les processus de fabrication et de valorisation sont intégrés dans le processus de vivre dans le présent. Ils ont donc une dimension universelle puisque nous vivons toujours dans le présent, quel que soit l'emplacement de ce présent dans le flux du temps. Par conséquent, je peux pour ces processus proposer des idéaux qui soient moins abstraits dans la logique que ceux proposés par Kant. En particulier, mes idéaux pourraient être intemporels, même s'ils prennent en compte le caractère constamment changeant du contenu des valeurs dans une société, ou une réalité qui a tant dérangé Durkheim. Certes, ces idéaux devront posséder la qualité d'apparaître de façon automatique dans le processus de vivre le présent, car l'approche processuelle implique que ces idéaux, comme toute chose, sont constamment sous la menace de ne pas se prolonger. En proposant ces idéaux, j'adopte donc en réalité une véritable position morale à propos de la philosophie de l'histoire. Je me déclare un optimiste. Mais en adoptant une ontologie de processus social fondamentalement processuel, c'est-à-dire en m'éloignant du Kant théoricien des trois critiques pour me rapprocher du Kant plus pragmatique de l'idée d'une histoire universelle, j'ouvre la voie à une nouvelle approche du problème des faits et des valeurs. Celle-ci permet de mieux comprendre les cas concrets où cette question des faits et des valeurs se pose, comme par exemple le fait que les universitaires se soient considérablement politisés au cours des 30 dernières années, l'évolution des rôles de genre, ou encore la tentative visant à imposer au reste du monde le contractualisme comme système politique universel. Je défends l'idée que de tels changements se produisent tout le temps, et que nous devons trouver le moyen de les engendrer et de les vivre et de les diriger d'une façon qui remplisse le mieux des critères moraux pour le changement. Mais dans le même temps, ces nouvelles règles pour changer la façon dont nous fabriquons et valorisons devront conserver l'essentiel des atouts des approches préexistantes, par exemple ceux de contractualisme dont nous venons de discuter. Ceci étant dit, cette nouvelle perspective a bien d'autres tâches à accomplir et c'est la raison pour laquelle je ne vous propose pas ici de critères en tant que tels. À d'autres occasions, j'ai détaillé les formes diverses que ces critères pouvaient prendre en termes de résultats souhaitables pour la société et je finirai par rassembler tout cela dans un livre sans doute. Pour l'instant, cependant, j'espère vous avoir persuadé au cours de ce cycle de conférences qu'il est possible d'envisager le problème des faits et des valeurs d'une nouvelle manière. Il s'agit de se débarrasser de l'ontologie figée qui a si longtemps caractérisé la pensée juridique et politique occidentale pour aborder la question des faits et des valeurs à partir du postulat que tout est toujours en changement. Cette perspective nous met en difficulté quand nous ne sommes plus en terrain familier. Mais je pense qu'une approche de ce type a deux atouts. Elle est davantage réaliste d'un point de vue empirique, ainsi que plus solide d'un point de vue factuel, et elle se montrera davantage morale à très long terme, du point de vue moral. Le parcours que nous devons accomplir entre la société dans laquelle nous sommes et une société qui soit viable, juste et humaine, sera long et semé d'embûches. Même quand nous y parviendrons, le processus social continuera de se renouveler et de changer de manière continue. D'ici là, nous devons regarder en face une humanité qui est divisée en d'innombrables façons et qu'aucune valeur partagée ne fédère, si tant est même qu'il soit possible que l'humanité puisse être véritablement unie autour des valeurs partagées. S'il existe des règles morales qui puissent nous guider sur ce difficile parcours, celles-ci doivent régir la façon dont nous modifions les faits et les valeurs de la société, quel que soit le présent où nous nous retrouverons. Cela, nous le faisons sans cesse, mais l'enjeu ici est de trouver comment le faire d'une manière qui soit juste. Et d'ailleurs, cette manière ne doit pas seulement se montrer juste vis-à-vis des vivants, mais aussi vis-à-vis de ceux qui ont vécu et de ceux qui vivront un jour. Se dresse donc devant nous une montagne de travail intellectuel et moral à abattre. Qu'attendons-nous donc pour nous y mettre ?